Il est 7h.
D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin.
La promesse d'Emmanuel Macron, une vaccination massive contre le Covid d'ici le mois d'août, le président rassurant sur les approvisionnements. Des vaccins que la France va produire sur son sol d'ici un mois, annonce le chef de l'État, 4 sites dédiés. Et bientôt, les pharmaciens pourront vous inoculer le sérum grâce à l'arrivée des doses d'AstraZeneca, homologuées hier par la Haute Autorité de Santé. Elles se conservent dans un réfrigérateur classique. Dans ce journal, une bonne nouvelle qu'on ne va pas bouder. Les vélos Mercier sont de retour en France. Production relocalisée depuis l'Asie dans les Ardennes. Effet Ventoline pour les locale. Et puis eux sont à bout de souffle. Les footballeurs marseillais jouent ce soir à Lens en pleine crise. Entraîneurs mis à pied, président contesté, supporters excédés.
Juste après ce journal, à 20$ la dose, Pfizer compte réaliser 15 milliards de revenus avec son vaccin. L'éclairage éco de Nicolas Barré. Une histoire, celle de Captain Moore. Pourquoi est-ce que la mort de ce centenaire émeut l'Angleterre? C'est le regard international de Vincent Hervouette. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron en a fait la promesse en direct hier soir à la télévision, entretien à TF1 depuis l'Elysée, qui n'avait pas été annoncé. Le président a assuré que tous les Français qui le souhaiteront pourront être vaccinés contre le Covid-19 d'ici le mois d'août prochain.
Et face à l'approvisionnement en doses de vaccins qui reste poussif, hein, le président a assuré sa volonté d'accélérer.
Dans quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie, et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. Ce qu'on veut faire, c'est produire encore davantage, à court terme. Dès les prochaines semaines, c'est-à-dire dès fin février, début mars, nous aurons des sites qui vont, en France, produire le vaccin. On en aura 4 qui, à partir de fin février, début mars, et sur les semaines et mois qui suivront, vont progressivement s'ouvrir et produire.
Un président qui défend ici la stratégie française de vaccination. Pour qu'elle fonctionne, il faut aussi que l'industrie pharmaceutique joue le jeu. D'ailleurs, Jean-Rémy Baudeau, la prise de parole surprise du président est intervenue à la sortie d'une réunion avec les grands noms français et européens de la pharmacie.
Oui, et c'est d'ailleurs la raison de cette réunion organisée hier soir à l'Elysée, mettre la pression sur la filière pharmaceutique, que tous les acteurs français soient prêts à produire. Ça commencera d'ailleurs dès le mois de février avec 4 nouveaux sites de production en France. Mais il n'y aura pas de miracle. Emmanuel Macron l'a dit, le reconfinement et les vaccins, ce sont 2 choses différentes. Le président distingue le court terme, avec à nouveau des efforts demandés aux Français, des chiffres scrutés quotidiennement à l'Elysée. J'essaie de prendre à chaque étape la décision la plus adaptée, a plaidé hier soir le chef de l'État. Mais Emmanuel Macron se place aussi dans une perspective de moyen et long terme, avec des Français vaccinés à la fin de l'été, si les livraisons et la production suivent. Emmanuel Macron, qui avait laissé son Premier ministre annoncer le couvre-feu renforcé vendredi soir, mais encore une fois, c'est lui qui remonte au créneau pour justifier ses choix, pour remobiliser la vaccination. C'est notamment sur ce point qu'Emmanuel Macron jouera la fin de son quinquennat.
Voilà qui devrait permettre justement d'accélérer la vaccination en France, l'arrivée bientôt des doses du vaccin d'AstraZeneca, homologué hier par la Haute Autorité de Santé.
Réservé aux moins de 65 ans, car on ne sait pas encore s'il est suffisamment efficace chez nos aînés. Son immense avantage, il peut être conservé dans un réfrigérateur classique. Ainsi, les pharmaciens, notamment, pourront disposer de doses dans leurs officines et vous administrer l'injection. Satisfaction de Karine Wolfthal, présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens.
C'est une bonne nouvelle. Ça va augmenter le nombre de vaccinateurs et surtout, la bonne nouvelle, c'est pour les Français qui vont avoir un accès facilité à cette vaccination en proximité avec des professionnels de santé qu'ils connaissent, qui sont quasiment en bas de chez eux. On a montré avec la vaccination grippe que nous étions capables de vacciner largement et en toute sécurité la population. Nous avons vacciné 3 millions de personnes en un mois et demi. Donc nous avons l'expérience depuis maintenant plusieurs années. Nos officines sont organisées pour ça. On aimerait bien pouvoir vacciner également avec les vaccins Pfizer et Moderna, qui ne sont pas si compliqués que ça en termes de transport et de logistique. On pourrait très bien organiser cette vaccination en ville également.
Karine Wolfthal, présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, jointe pour Europe 1 par Hélène Terzian. Et sur le vaccin russe Spoutnik, efficace à plus de 91% selon la revue médicale de Lancet, son éventuelle utilisation en France serait une décision scientifique, pas politique, a détaillé Emmanuel Macron. Le producteur russe n'a pour l'heure pas demandé une autorisation de déploiement sur le marché européen.
7h05 sur Europe 1. Dans un instant, cette bonne nouvelle pour l'économie française avec la relocalisation de Mercier des vélos. Made in France, bientôt fabriqué dans les Ardennes.
Et puis à Marseille, le foot plus que jamais, sans dessus-dessous, crise à l'OM, mais d'abord...
D'abord, une initiative positive, tiens, pour lutter contre la précarité des étudiants touchés par la crise, faute notamment de petits boulots.
Direction Nancy, où le Crédit Municipal leur propose un système de prêt d'urgence. Ça fonctionne comme un prêt en gage, le dépôt d'un objet, parfois de valeur, contre une somme d'argent. Mais là, les conditions sont très avantageuses, Arthur Mbaché.
En général, ici, on voit plutôt des personnes âgées déposer des bijoux. Là, il s'agit de permettre à des étudiants de mettre en gage un objet, même de faible valeur, par exemple une manette de console de jeu, en échange de 200 euros, explique Michel Combe, le directeur du Crédit Municipal de Nancy.
On s'est dit que vis-à-vis d'un public plus jeune, ça pouvait être intéressant d'expérimenter le dépôt d'objets liés à la téléphonie, à l'informatique, par exemple un téléphone usagé ou une vieille console de jeu, qui n'aura donc pas cette valeur de 200 euros, mais au regard de la situation de la personne, on lui fera cette aide.
D'accord.
Je pense qu'à juste titre, on commence à parler de la détresse du monde étudiant. Il y a différents types de réponses. On essaie d'en apporter une à un petit niveau, notamment pour les étudiants qui se retrouvent isolés, sans ressources ou avec des très faibles revenus.
Pour sélectionner les bénéficiaires, éviter en fait que n'importe quel étudiant se présente pour empocher 200 euros en échange d'une quelconque babiole, le Crédit Municipal s'appuie sur le Centre d'Action Sociale de la ville de Nancy et va mettre en place un protocole avec l'Université de Lorraine. Nancy, Arthur Mbaché, Europe.
Et comme pour ne pas se laisser abattre par la crise, certains acteurs économiques pensent déjà à l'après-Covid.
Éviter autant que possible les faillites, faciliter la relance. Les entreprises détiennent l'une des clés, elles doivent tout faire pour payer leurs fournisseurs dans les meilleurs délais, Carole Ferry.
Oui, et d'ailleurs, 16 grandes entreprises ont décidé de montrer l'exemple. Parmi elles, L'Oréal, Michelin, EDF, Engie, Danone, Orange ou encore Système U. Toutes ont mis en place un système de paiement accéléré. Les entreprises ont normalement 2 mois pour payer leurs fournisseurs. Eh bien, le font en 1 mois pour les aider à affronter la crise. Être payé le plus vite possible est essentiel pour les petites et moyennes entreprises. Ce sera encore plus vrai quand la reprise sera là, selon le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet.
Payer les factures le plus vite possible, ça va être une des clés majeures de la relance économique de notre pays. On est face à un tissu d'entreprises qui aujourd'hui ont des trésoreries à zéro. Donc une facture qui n'est pas payée, ça ne permet pas de redémarrer. Au contraire, si on paye le plus vite possible, on redonne de l'énergie, on redonne du carburant à ces petites entreprises, on leur permet de réembaucher le personnel qui est en chômage partiel, d'acheter de la matière première s'ils en ont besoin, de répondre aux commandes et de relancer l'économie.
Et le médiateur a fait ses calculs. Quand les entreprises dépassent les délais légaux de 15 jours, ce sont 16 milliards d'euros qui échappent à leurs fournisseurs et ralentissent l'économie.
Avec des effets en cascade, hein, vous le comprenez, une clé majeure de la relance, dit le médiateur des entreprises. Merci Carole Ferry. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut vous faire part d'une bonne nouvelle comme celle que vous allez en entendre. Le retour sur notre sol d'un fleuron de l'industrie française.
Mercier, marque de vélo qu'on voyait en noir et blanc sur les maillots de Raymond Poulidor, né il y a un siècle dans la Loire et produit ces derniers temps en Asie, Mercier se relocalise en France, à Revin, dans les Ardennes. Bouffer l'oxygène pour les acteurs de l'économie locale, Lionel Gougelot les a rencontrés.
Mon grand-père paternel vendait des vélos. Je pense que mon premier vélo, ça devait être un Mercier. Donc vous voyez, ça me parle absolument.
Mais au-delà du clin d'œil, Daniel Durbecq, le maire de Revin, salue dans la relocalisation des vélos Mercier sur le territoire de sa commune la volonté du fabricant de renouer avec le Made in France.
Il préfère avoir du français, quoi, avec une marque centenaire, c'est très important. Moi j'y crois.
Une relocalisation pour être plus proche de la clientèle du vélo mécanique et électrique dans un marché en plein essor, à Bernard Dequens, président de la communauté de communes.
C'est des croissances à 2 chiffres, hein, donc il y a un vie, pas de souci. Donc là, on est vraiment dans des productions qui sont intéressantes. Et c'est l'avenir.
Ici, l'usine s'installera sur une friche industrielle de 60 000 m². 270 emplois sont promis dans un territoire qui compte 27% de chômeurs. Une aubaine aussi pour le tissu économique local, selon le maire.
Mais ça peut effectivement faire boule de neige. Vous avez plein de petites entreprises aujourd'hui qui pourraient effectivement travailler pour un groupe comme le groupe Mercier. Pour Revin, c'est une bouffée d'oxygène.
Et pour Smaïn, jeune chômeur de 27 ans, c'est aussi un espoir de jour meilleur.
Ça met du baume au cœur à tout le monde, on va dire. Avec les entreprises qui ont fermé et tout. Non, franchement, moi, j'aimerais bien postuler. Franchement, ça serait une bonne opportunité. Maintenant, on attend, on va voir.
Début des travaux en mars prochain. Les premiers vélos devraient sortir des chaînes de montage en fin d'année. À Revin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende requis contre l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, 91 ans, dans le volet financier de l'affaire Karachi. 2 ans avec sursis et 100 000 euros d'amende contre son ancien ministre de la Défense, François Léotard, âgé, lui, de 78 ans. Le procureur général, François Molins, a demandé à la Cour de tenir compte de l'âge avancé des prévenus. Aujourd'hui, parole à l'avocate d'Édouard Balladur.
Le comédien Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille aînée, Colline Berry, elle a porté plainte. Le comédien réfute dans un long texte publié sur les réseaux sociaux. On va en reparler à 7h30.
Le foot et Marseille, plus que jamais, l'Olympique du nez, battu 4 fois lors des 5 derniers matchs. L'OM joue ce soir à Lens, en Ligue 1, 23e journée. Et après l'intrusion violente de supporters samedi au centre d'entraînement, on a encore écarquillé les yeux hier quand l'entraîneur André Villas-Boas, en conflit avec sa direction, a annoncé sa démission face aux journalistes.
Jean-François Pérez, bonjour.
Bonjour.
Chef du service des sports d'Europe 1. C'est une équipe bien mal en point qui retrouve aujourd'hui la compétition.
Et oui, il y a 50 ans déjà, un illustre personnage du club assuré, l'OM, c'est le cap des tempêtes. Hier, le summum de l'absurdité a été atteint, un entraîneur qui démissionne et dans la foulée, une direction qui le licencie. C'est dans cette atmosphère surréaliste qu'André Villas-Boas, au volant de sa voiture, a fait des adieux express aux supporters.
Ah, oh, tu vas merci beaucoup à tous votre soutien, c'était une année et demie magique et... C'est dommage que cette histoire finisse comme ça, mais j'ai bien aimé.
Exit donc le Portugais en désaccord profond avec ses dirigeants, mais qui était encore très populaire auprès de ses joueurs. Certains ont posté des messages de regret, voire de tristesse sur les réseaux sociaux. D'autres, en privé, ne cachent plus leur envie d'aller voir ailleurs le plus vite possible. Les violences de samedi sont encore dans toutes les mémoires. C'est cet OM orphelin et en pleine déprime qui va jouer ce soir à Lens, un match crucial pour la suite d'une saison bien mal embarquée.
Jacques-Henri Hérault doit partir. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin et c'est dans une dizaine de minutes sur Europe 1.
Et dimanche, c'est Marseille-Paris-Saint-Germain, pas l'idéal pour retrouver la sérénité du côté de l'OM. Et d'abord ce soir, 23e journée, Lens-Marseille donc, et Paris-Saint-Germain-Nîmes. Lille, le premier du classement, se déplace à Bordeaux à partir de 19h.
Jérôme Lacroix, merci beaucoup. C'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le projet de loi climat présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Témoignage ce matin, Grégoire Frati, français lambda. C'est ainsi qu'il se présente, l'un des 150 tirés au sort dans son livre « Moi, citoyen ». Il revient sur son expérience, en dévoile les coulisses, la question écologique bien sûr, mais aussi cette innovation démocratique. Le livre sort aujourd'hui et il a choisi Europe 1. Aujourd'hui, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Grâce à son vaccin anti-Covid, le laboratoire américain Pfizer compte réaliser 15 milliards de dollars de ventes et des profits confortables.
Oui, alors 15 milliards de dollars sur un seul produit, c'est ce que les labos pharmaceutiques appellent un blockbuster. En l'occurrence, à ce niveau-là, ce sera probablement l'un des plus gros de l'histoire de l'industrie. Blockbuster rentable, puisque ce vaccin, vendu 19,5 $ la dose aux États-Unis, devrait permettre à Pfizer et à la biotech allemande BioNTech qui l'a mis au point, de dégager cette année une marge avant impôt d'environ 4 milliards de dollars.
Des profits importants en face, il faut le dire, hein, la recherche coûte cher.
Voilà, Pfizer par exemple investit 9 milliards de dollars par an en recherche-développement. Sanofi, à titre de comparaison, en dépense un peu plus de 7 milliards de dollars. Donc oui, ces profits importants sont vitaux pour maintenir l'effort de recherche des grands labos et on a tendance parfois à l'oublier, parfois même à le critiquer, ce qui est vraiment absurde parce que ça finit par coûter très cher tout ça. L'expérience française depuis une vingtaine d'années est éclairante. Dans les années 90 et jusqu'en 2008, la France était le premier producteur européen de médicaments. Nous ne sommes plus maintenant que le quatrième derrière la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Les usines françaises ne produisent que 22% des médicaments remboursés par la Sécu. Tout le reste est importé. Nous ne produisons même que 17% des médicaments hospitaliers et avant la crise du Covid, seulement un quart de nos besoins en vaccins.
Et c'est pas uniquement une question de balance commerciale, hein. C'est aussi une question stratégique évidemment. Pourquoi ce décrochage, Nicolas?
Justement, parce qu'on a privilégié la réduction des prix des médicaments, donc en pesant sur les marges des labos, à la politique industrielle. Pour faire des économies à la Sécu, la loi de financement de la Sécurité sociale fixe chaque année le montant des dépenses de médicaments et donc limite volontairement le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. En 2019, l'année précédant le Covid, la loi a imposé une baisse des prix des médicaments de 900 millions d'euros et ces restrictions, eh bien forcément, pèsent ensuite sur les investissements des labos. Alors que chez nos voisins européens, la croissance du chiffre d'affaires de l'industrie des médicaments est de l'ordre de 3-4% par an, chez nous, elle est plafonnée à moins de 1% à cause des efforts réclamés sur les prix. Mais le résultat, eh bien, nous le payons, nous le voyons aujourd'hui, moins de profits, moins d'investissements, plus de délocalisation. C'est tout cela que la crise du Covid a mis en évidence et nous amène à revoir si nous ne voulons pas décrocher définitivement.
Merci Nicolas Barré. Il est 7h18 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Herouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
On a appris hier la mort du Captain Moore et le Royaume-Uni est en deuil.
Oui, tout à fait récente, la reine envoie ses condoléances. Boris Johnson met l'Union Jack en berne. Le chef de l'opposition se recueille. Vous savez pas qui est Tom Moore? Vous ne connaissez que Roger Moore? Eh bien, sachez que Captain Tom est le véritable héros. C'est lui le saint, l'agent au service de Sa Majesté. Si vous ne le saviez pas, c'est qu'il a attendu sa 100e année pour accéder à la gloire. Il l'a obtenu en poussant son déambulateur, après avoir mis sa cravate rayée, son blazer à boutons dorés et agrafé ses 3 médailles. Tom Moore est cet Anglais de 99 ans qui a décidé au printemps dernier de collecter 1000 livres sterling pour le Service National de Santé en s'engageant à faire 100 longueurs de jardin avant d'avoir 100 ans. Son défi, son petit téléthon pour aider le personnel soignant totalement débordé par le Covid, 100 fois 25 pas, entrer dans les pieds devant sa maison près de Bedford.
Le bouche à oreille. Puis les médias se sont emparés de l'histoire.
Et il recueille 33 millions de livres sterling pour la bonne cause. Le pays plongeait dans le chaos sanitaire et le deuil. Captain Tom galvanise les énergies. Il rend aux Britanniques de l'espoir, aux vieux de la dignité. La reine anoblit l'ancien combattant qui fait la guerre à 100 ans. Un vieil Anglais de la classe moyenne, si typique, qui a gagné ses galons d'officier contre les Japonais en Birmanie, aux Indes. La gloire de l'Empire, la campagne d'Arakan avec les Rohingyas, la bataille de l'île Ramri où les Japonais sont dévorés par les crocodiles de mer et personne ne parle de crimes contre l'humanité. Captain Tom a fait la guerre, puis il a vécu sa vie, la retraite au village, avant de se mobiliser pour faire 100 fois un tour dans son jardin avant d'avoir 100 ans.
Il voulait récolter 1000 livres, 33 millions de livres. Et puis il meurt, soudainement il meurt du Covid.
Oui, il n'avait pas été vacciné car il était sous traitement. Il est hospitalisé lundi, il est mort mardi, entouré de ses deux filles, un vrai privilège. Captain Tom a été une formidable machine à sous. Et bien davantage, dans le royaume désuni et décimé par l'épidémie, il est un modèle, un mythe, de quoi produire de l'estime de soi et de la fierté à être ensemble. Et en ça, les Anglais sont imbattables.
Merci Vincent Herouette. Et puis tiens, Vincent, Nicolas, puisque nous sommes au Royaume-Uni, l'histoire d'un autre Anglais, beaucoup plus jeune. Il s'appelle Joseph Flaville. Il a 19 ans, hospitalisé en urgence après un accident de la route le 1er mars dernier. Eh bien, 11 mois après, il vient tout juste de sortir du coma. Vous êtes en train de faire les calculs, oui, 11 mois de coma, Joseph n'avait aucune idée de la pandémie à son réveil. Imaginez avoir manqué absolument toute cette période. Pour le coup, pour lui, l'expression « monde d'après » là prend tout son sens. Il découvre le confinement, les masques, les fermetures, le coronavirus. Joseph Flaville a pourtant été confronté au Covid. Figurez-vous qu'il l'a attrapé par deux fois à l'hôpital, une fois dans le coma et une fois en s'en réveillant. Incroyable, 11 mois, vous fermez les yeux, vous vous réveillez, on est dans le monde d'aujourd'hui.
Welcome back.
7h, ouais, peut-être se rendormir. 7h21, vous êtes sur Europe 1, à suivre l'édito sport, Virginie Fulpin. Le président de l'OM doit partir, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le psychodrame continue à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur présente sa démission et ensuite, oui, ensuite, le club décide de le mettre à pied. Le tout en quelques jours d'OM PSG. Pour vous, Virginie, ça n'est plus possible et le président Jacques-Henri Hérault doit partir.
Bah, faut pas rester là, monsieur. Regardez autour de vous, vous êtes en train de tout détruire. Vous avez réussi à transformer l'OM en champ de ruines, en oscillant entre la tragédie et la comédie burlesque. Ça devient gênant. Tous les jours, que dis-je ? Toutes les heures, il y a un séisme qui fait vaciller le club sur ses bases. Hier, ça a donc commencé avec l'entraîneur, André Villas-Boas, qui dit en conférence de presse qu'il a présenté sa démission. Il n'est pas d'accord avec la politique sportive, notamment parce qu'on lui impose des joueurs dont il ne veut pas. Je veux rien de l'OM, je veux pas d'argent, je veux juste partir. En gros, sortez-moi de là, j'en peux plus. Hein. Et je le comprends, à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde s'il ne peut pas faire son travail correctement. Si la direction ne respecte pas ses prérogatives d'entraîneur, autant s'en aller. C'est beaucoup plus digne que de rester juste pour toucher son gros chèque à la fin du mois. Hein. Ça semblait déjà agité comme après-midi, mais attention, on a encore pris un grand coup de mistral quand l'OM a sorti un communiqué pour expliquer que le club mettait André Villas-Boas à pied à titre conservatoire. Alors je sais bien qu'il y a une question de rupture de contrat un peu plus compliquée qu'une simple démission, mais en termes de communication, c'est désastreux. Comment être les premiers à vouloir licencier un entraîneur démissionnaire? Franchement, on a l'impression que plus personne ne tient la barre dans ce bateau. Hein.
Et pour vous, le club ne peut pas remonter la pente avec le président Jacques-Henri Hérault?
Il réussit quand même un grand chelem à l'OM. L'équipe est aux abois sur le terrain, les tensions entre joueurs sont palpables, les relations avec les supporters, j'en parle même pas, hein. Je crois qu'on a eu ce week-end une bonne idée de ce que ça donnait. Avec les salariés du club, ça va pas non plus. Et maintenant, l'entraîneur qui claque la porte, ou non, on lui claque la porte au nez, on sait plus. Et je passe sur l'état des finances, vous croyez pas qu'il est plus que temps de passer la main pour quelqu'un qui aime autant croire qu'un club de foot se gère comme une entreprise, en employant plein de mots anglais pour avoir l'air de maîtriser la situation? Il se rend compte que le bilan est dans le rouge, non? Jacques-Henri Hérault n'est plus l'homme de la situation à l'OM. Enfin pardon, il n'est plus the right man at the right place.
Merci Virginie Fulpin. Il est 7h26 et je voudrais vous faire écouter Bernard Tapie qui lui aussi a réagi, figure historique évidemment du club, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, à la voix, vous le savez, affaiblie par la maladie. Écoutez-le.
Arrêtons les frais, que la comédie s'arrête. Il y en a un autre qui doit limiter, c'est celui qui est en train de foutre cette pagaille de lui-même. Il doit comprendre qu'il n'est pas à sa place.
Et nous allons suivre, évidemment, et vous l'avez mentionné, nous sommes à quelques jours du Classico.
Il y a déjà Lens Olympique de Marseille ce soir et puis le Classico dimanche.
À suivre donc. Merci Virginie. 7h26, nous retrouvons Stéphane Bern, comme tous les matins, pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous le savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, vous m'êtes très sympathique et loin de moi l'idée de vous chercher des noises. Chercher des noises, d'où vient cette expression?
Alors chercher des noises, c'est chercher à se disputer avec quelqu'un, on dit chercher des poux aussi. Vous nous ferez l'expression pour chercher des poux?
Oui, ce sera mon cadeau d'anniversaire le 15 avril.
Vous êtes bien renseigné.
En attendant, restons sur les noises. Au 11e siècle, le mot signifiait bruit. Vous l'avez compris, cela donnera en anglais noise. Puis la noise a changé de signification. On est passé du bruit à la dispute. Alors, est-ce que c'est parce que pendant les esclandres, on est rarement silencieux? L'histoire ne le dit pas. Pour chercher des noises, l'expression est apparue au XVIIe siècle. Et ce qui est amusant, c'est que l'on disait même à l'époque « chercher noises pour noisettes ». Les noisettes étant des choses sans grande valeur, en gros, on cherchait des querelles pour pas grand-chose. Vous parliez de chercher des poux tout à l'heure, eh bien, sachez qu'en Espagne, on dit « buscar la pulgas », qui signifie en fait « chercher des puces ». On n'est pas loin des poux.
Ça ressemble.
Au Brésil, une autre expression est utilisée et elle est très belle. On dit « procurar pelo en ovo », que l'on peut traduire par « chercher des poils sur un œuf ». En effet, bon courage à celles et ceux qui ont décidé de se lancer dans ce passe-temps.
16h, tout à l'heure, on vous retrouve avec Mathieu Noël, Stéphane.
Oui, alors on réunit la reine d'Angleterre, Elisabeth Ier, la première femme chef d'orchestre, Jeanne Évrard, et Catherine Robbe-Grillet, connue sous le nom de maîtresse-femme de Jeanne de Berg. Leur point commun, elles mènent leur monde à la baguette, à la cravache même.
À tout à l'heure pour Historiquement Vôtre. Il est 7h28 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Avec toujours ces pluies, ces satanées pluies qui n'ont pas fini de nous enquiquiner, permettez-moi l'expression, nous enquiquiner jusqu'à pratiquement dimanche, puisqu'après on espère que le froid, on en est venu à espérer le froid, on en est venu vraiment aux extrémités. On espère que le froid va nous débarrasser de ces intempéries qui sont vraiment très 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 dures. Alors en ce moment, toujours les vingtaines de départements vigilance orange, toujours des inondations à foison, toujours des inondations extrêmement dangereuses, et que vous vivez, chers amis, que nous partageons votre douleur et vos difficultés avec beaucoup d'émotions ici à Europe 1. Les pluies vont continuer sur le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne. Elles seront là, tenaces encore aujourd'hui, assez fortes. Elles seront présentes sur Paris, là, dans les heures qui viennent, 2-3 heures qui viennent, il y aura un passage pluvieux, mais elles seront quand même espacées sur la capitale. Parfois fortes, ces pluies, sur le Poitou-Charentes, la Lorraine, l'Alsace. Et puis, si j'en cherche pour aller plus vite, les seules régions où il ne pleuvra pas aujourd'hui, eh bien, notez le Midi-Pyrénées, le bassin méditerranéen, la Corse. Voilà où il faut aller si vous avez envie d'un petit peu de soleil. Les températures ce matin se situent entre 10 et 16 degrés. Dans la journée, c'est une consolation, entre 13 et 19. Il en fera 13 à Lille, 14 à Paris et 17 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Eugène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans toutes les entreprises où cela est possible, le recours effectif au télétravail devra être renforcé.
Le Premier ministre l'avait rappelé, le télétravail n'est toujours pas une option, pas même dans les petites entreprises. Des brigades d'inspecteurs vont multiplier les contrôles. Dans ce journal, Richard Berry, accusé d'inceste par l'une de ses filles, l'acteur français se défend. On vous expliquera comment reconnaître le variant anglais du virus à ses symptômes. Et puis la pression monte autour des droits télé du foot français. La Ligue espère trouver un diffuseur avant minuit.
Juste après ce journal, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. On va faire un petit peu d'exercice ce matin. On vous emmène ensuite dans les coulisses de la Convention citoyenne pour le climat. L'un des tirés au sort en dévoile justement ses coulisses. Il publie Moi citoyen aux éditions First. Première interview de Grégoire Frati, c'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence par cette nouvelle affaire d'inceste qui touche cette fois le cinéma français. Le réalisateur et scénariste Richard Berry est accusé d'abus sexuels par sa fille aînée. Aujourd'hui âgée de 45 ans, elle porte plainte contre son père pour viol lorsqu'elle avait entre 8 et 10 ans.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Cette plainte, elle a été déposée en janvier, mais elle n'a pas été rendue publique. En fait, le comédien a pris les devants et a publié un long communiqué hier soir.
Oui, c'est un long texte dans lequel Richard Berry dément ses accusations. Le comédien affirme, je cite, n'avoir jamais eu de relation incestueuse ou déplacée avec sa fille Colline, ni avec aucun de ses enfants. Des allégations fausses, même répétées 100 fois, écrit-il encore, en accusant sa fille d'avoir remanié son récit au fil des ans et encore récemment dans la foulée des révélations du livre de Camille Kouchner. L'acteur, qui se pose en victime de la folie destructrice de sa fille, aujourd'hui âgée de 45 ans, s'interroge sur la raison de la souffrance de cette dernière et tente de l'expliquer par son absence répétée durant son enfance. Le parquet de Paris, de son côté, ne commente pas ces informations, mais l'enquête pour viol et agression sexuelle a été confiée à la brigade de protection des mineurs qui va devoir entendre la plaignante et au plan judiciaire, la question qui va se poser, outre l'enquête à proprement parler, c'est celle de la prescription.
Les précisions de Chloé Triomphe.
Le gouvernement hausse le ton pour faire respecter le télétravail. Il y a une forme d'érosion contre laquelle il faut absolument se remobiliser. Ce sont les mots de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, hier, en marge d'un déplacement à Béthune.
Et vendredi dernier, déjà, le Premier ministre Jean Castex l'avait rappelé, le télétravail doit être renforcé dans toutes les entreprises où cela est possible, toutes les grosses sociétés de plusieurs milliers d'employés, comme les PME, car il y a comme du relâchement dans l'air.
Seuls 64% de ceux qui peuvent télétravailler le faisaient en janvier, contre 70% en novembre dernier, selon la dernière enquête Harris pour le ministère du Travail. Alors, le gouvernement serre la vis et il met en place des brigades pour contrôler le respect des consignes. Élise Dangean.
Les inspecteurs du travail vont contacter toutes les entreprises françaises de plus de 1000 salariés, comme ils l'avaient fait au début du deuxième confinement. Objectif, faire un point sur leur situation. La nouveauté, c'est que les contrôles vont s'élargir aux plus petites entreprises et seront davantage ciblés selon les secteurs d'activité. On va aller plus loin, dit la Direction générale du travail. Si certains employeurs ne rentrent pas dans les clous, ils seront mis en demeure, une procédure qui reste rare. À ce stade, l'inspection du travail n'en compte qu'une trentaine pour non-respect du travail à distance, mais qui s'avère efficace dans la plupart des cas. Elle suffit à remettre l'entreprise dans le droit chemin.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Tous les adultes qui le souhaitent pourront se faire vacciner avant la fin de l'été. C'est ce qu'a promis Emmanuel Macron hier soir lors d'une interview surprise dans le 20h de TF1. Et d'ici le mois de mars, ce sont tous les pensionnaires d'EHPAD volontaires qui auront reçu une dose.
Le président a vanté sa stratégie de vaccination en prévenant tout de même l'option du reconfinement est toujours sur la table.
Les hospitalisations continuent d'augmenter, les entrées en réanimation aussi et surtout, le variant anglais gagne du terrain. En Ile-de-France, il représente désormais 15 à 20% des contaminations. Mais alors comment savoir si l'on est atteint par ce variant? En fait, Victor Dolande, une étude publiée hier dans le British Medical Journal indique que ses symptômes seraient un peu différents de ceux de la souche initiale.
Oui, pour réaliser cette étude, 6000 personnes atteintes par ces deux virus ont détaillé leurs symptômes et selon les résultats de cette enquête, l'atout concernerait 35% des patients qui ont contracté le variant anglais contre 28% chez les personnes touchées par le Covid. D'autres symptômes sont également moins présents avec le variant anglais, comme l'explique Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Paris.
On retrouve avec le variant anglais un peu moins de ces signes caractéristiques, la perte du goût et de l'odorat. Il y en a, mais c'est moins fréquent. Et par contre, ce qui semble être un peu plus fréquent, c'est la toux, peut-être des éternuements aussi, des maux de gorge. Ça peut expliquer la contagiosité plus forte. C'est une hypothèse.
Et pour cause, quand vous toussez et quand vous éternuez, même avec un masque, le virus passe un peu sur les côtés. Des données qui restent toutefois à consolider. D'autres études seront d'ailleurs bientôt menées en France pour mieux comparer ces deux virus.
Les explications de Victor Dolande. Dans l'actualité aussi, un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende requis contre Édouard Balladur dans le volet financier de l'affaire Karachi. L'accusation estime que l'ancien Premier ministre connaissait l'origine frauduleuse du financement de sa campagne présidentielle en 1995. À l'étranger, plus d'un millier de personnes ont été interpellées hier en Russie lors de rassemblements en faveur d'Alexei Navalny. Le principal opposant au pouvoir a été condamné à près de 3 ans de prison. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore les États-Unis ont appelé à sa libération immédiate.
Et puis, plus que quelques heures pour espérer sauver le foot français du chaos.
Toujours pas de repreneur pour diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 lundi. La Ligue de football professionnelle s'était donnée 48 heures pour trouver une solution. L'échéance arrive donc ce soir. Et la pression monte car la situation financière et donc l'avenir des clubs est en jeu. Alors Cyril de la Morinerie, le président de la LFP, se démène pour trouver une issue.
Oui, Vincent Labrune multiplie les coups de fil pour tenter d'arracher un accord avec un diffuseur. Même si la chaîne cryptée a boudé l'appel d'offres et entamé un bras de fer judiciaire, le lien n'est pas coupé pour autant avec Canal+, confirme une source proche du dossier. Par ailleurs, Jean-Michel Roussier, soutenu par un fonds d'investissement, n'aurait pas dit son dernier mot. Pour le président de la CA Ajaccio, Christian Leca, et membre du comité de pilotage, la pression est bien sûr forte sur Vincent Labrune, mais il sait la gérer.
Il n'a pas besoin qu'on la lui mette, il se la met tout seul. Hein. Il est responsable, Vincent, il sait ce qu'il a à faire. Hein, et c'est sûr qu'il a une énorme responsabilité sur le dos. Hein.
Il la gère bien ?
Pour l'instant, oui. Hein. Je lui fais confiance.
Ouais.
À lui et à tout le staff de la Ligue.
De son côté, Mediapro va diffuser, selon nos informations, les matchs de Ligue 1 ce week-end. Mais le choc OM-PSG fait l'objet d'un traitement spécial. La Ligue espère encore une diffusion payante. M6 est candidate. Une source dirigeante confirme à Europe 1 que la chaîne a proposé de diffuser le match contre une somme conséquente à la place de l'émission Capital. La Ligue n'a toujours pas répondu à cette offre.
Cyril de la Morinerie. Et puis l'Olympique de Marseille se déplace à Lens ce soir. Dans un contexte plus que tendu, vous l'entendez dans le journal de 7h. Coup d'envoi 21h.
Merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La Voix de la France. À 8h15 ce matin, Jean-Yves Le Drian au micro de Sonia Mabrouk, le vaccin Spoutnik, la question des frontières, le tourisme aussi dans cette crise économique et sanitaire, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, invité politique de la matinale. Une voix parmi les Français dans le tête-à-tête Europe Matin, c'est dans un instant le témoignage de Grégoire Frati, tiré au sort l'un des 150 de la Convention citoyenne pour le climat. Avec Ondine Kayat, il publie « Moi citoyen » demain et il est sur Europe 1 pour sa première interview. Mais d'abord, nous retrouvons Bertrand Chamerois à la Toucham. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Sortez votre short en lycra ce matin, je vous parle interview surprise et gym à l'école.
A tout de suite, il est 7h38.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h40 sur Europe 1. La Toucham, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors hier, vous avez suivi l'interview surprise d'Emmanuel Macron aux 20h de TF1.
Oui, enfin, suivi, c'est un grand mot. Hein. Comme tout le monde, j'ai reçu des SMS. Il y a Macron sur TF1. Hein, quoi ? Panique totale. Puis le temps de retrouver ma télécommande et de zapper, c'était déjà fini. Je suis arrivé pour le reportage sur la neige à New York. Une communication inspirée des livraisons Chronopost, des jours qu'on vit dans l'attente d'une prise de parole présidentielle. Et pile au moment où on va aux toilettes sans téléphone, bam, appel en absence et avis de passage. On l'avait pas vu venir celle-là. Appelez TF1. Je veux faire le 20h pour faire un point sur les vaccins. Mais monsieur le président, il est 20h24, je m'en fous. Alors comme ça, j'annonce mes interventions trop en avance et ça stresse les Français, c'est ce qu'on va voir. Prévenez Gilles Boulot, j'interviens dans 2 minutes 30. Ouh ! Bon bah maintenant on sait, faut rester sur le qui-vive, le président peut prendre la parole à tout moment.
Alors on en vient à l'autre événement de la journée.
Sur une séance de gym dans une cour de récré, Jean-Michel Blanquer et son aisance.
Aux États-Unis, c'est Michelle Obama qui avait fait la promo du sport à l'école. Bah, bon, bah, nous, on a Jean-Michel Obama. C'est le souci des adaptations françaises, hein. Ça reste, français, quoi. On pointe souvent du doigt le manque de cohésion du gouvernement, mais de tous les membres du gouvernement, ceux qui sont le moins coordonnés sont ceux de Jean-Michel Blanquer, hein. Entre les bras et les jambes, il n'y a rien qui va. Ça communique pas. Hein. J'aurais vraiment aimé voir la dire comme du ministre. Mais si, Jean-Michel, allez, allez, ça fait jeune, c'est dynamique. Oui, ton pantalon Armentier, il te met en valeur. Mais j'en démords pas, le lycra aurait été plus saillant. Ça, ça va faire de belles images. Allez, on s'étire. Non, décoince-toi, Jean-Michel, là, c'est tendu, là. Moi tendu. Ah, t'es au max ? Bon, ben, reste comme ça, allez. Allez, c'est parti. Génial ! Allez, tu boxes ! Tu boxes, stop ! Allez, attention les bras, on
soulève les bras en se tillant. Merde, mais qu'est-ce qu'il me fait? Jean-Michel, ça va? Putain, je crois qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie, arrêtez tout.
Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes artistiques.
Bah pour moi, Mathieu, c'est un 10. Hein. Pour l'artistique, la technique, 10 pour tout. Et puis surtout, merci. Merci BFM d'avoir diffusé ces images. Merci Jean-Michel Blanquer. On est tous au bout du rouleau. Mais ces 30 secondes de vidéo nous ont fait oublier la pandémie, l'espace d'un instant. Cette vidéo, c'est une sorte de trou normand. Le truc qui aide à digérer les derniers mois bien lourds avant d'attaquer la suite. C'est un fou rire pendant un enterrement, un spa pour nos cerveaux. Oui, le variant anglais a muté dans une forme encore plus grave, mais hier, pendant quelques heures, on s'en fichait. Jean-Michel Blanquer a fait de la gym. Allez, demain, je vous débriefe le cours de varap d'Elisabeth Borne.
Merci Bertrand Chamerois. Et pour ceux qui... Non, baissez les bras, on arrête de danser. Pour ceux qui auraient manqué cette vidéo, je vous invite à aller voir Jean-Michel Blanquer et ce cours de gym avec des enfants.
Ah oui, vraiment, ça vous fera beaucoup de bien.
Moi, je crois que c'était la meilleure bande-annonce possible. Bertrand Chamerois, tous les matins sur Europe 1, 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Mon invité fait partie des 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Grégoire Frati, normand, pas politisé à la base, pas spécialement écologiste, il s'est investi. On va parler du climat, mais aussi de cette expérience démocratique inédite. Aujourd'hui, il publie, Moi citoyen, aux éditions First, et en premier, il a choisi Europe 1 pour en parler.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Grégoire Frati.
Bonjour Mathieu.
Vous avez 32 ans, vous travaillez dans la formation professionnelle en Normandie, je le disais, papa d'une petite fille de 2 ans. C'est d'abord un SMS que vous recevez.
Oui c'est ça, j'ai reçu un SMS me disant que j'étais tiré au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Autant vous dire, je savais pas du tout ce que c'était, le climat ça me parlait pas du tout, mais voilà, j'ai été tiré au sort, donc je me suis dit bon allez, je vais essayer de savoir ce que c'est, je me suis renseigné et puis finalement j'ai dit oui.
Je crois que vous avez même cru que c'était un spam.
Au début, oui c'est ça, je me suis dit c'est un spam, je suis allé vérifier sur internet, c'est quoi ce texto que je reçois, qui me demande des informations, où j'habite, quel âge j'ai. Puis finalement, quand je me renseigne, je vois que c'est officiel, que ça vient du gouvernement. Et puis, bah, voilà, je me dis pourquoi pas.
C'est d'abord ce que vous saluez, l'expérience démocratique en temps réel, à taille réelle, cette convention citoyenne. Vous dites que c'est une expérience même à reproduire.
Ah, bien sûr, c'est une expérience à reproduire. On s'étonne souvent de cet essoufflement démocratique qui peut mettre les Français dans la rue. On l'a vu avec la période des Gilets jaunes. Et en fait, il faut chercher les solutions qui permettent aux citoyens lambda. De reprendre la parole, de reprendre un peu en main cette chose politique qui nous paraît bien souvent éloignée. À travers cette convention citoyenne, nous, on a eu la chance d'être tiré au sort et d'avoir été plongé dans cet univers bizarre et complexe qu'est la politique et qu'est la vie nationale. Et finalement, on se rend compte que le citoyen, il a des choses à dire, des choses qui sont pas si bêtes que ça. Et donc oui, c'est à reproduire. Nous, on est les premiers, mais j'espère qu'on ne sera pas les derniers.
Je ne reviens pas sur tout le déroulé de la convention parce qu'on en a beaucoup parlé, 9 semaines, des week-ends, des experts, des groupes de travail, des débats. Est-ce que vous comprenez, cela dit, le débat sur votre légitimité, sur la légitimité de vos travaux?
Mais bien sûr, et ce débat sur la légitimité, il est hyper important. Parce qu'en fait, est-ce que la vraie légitimité, c'est celle d'être élu? Est-ce que c'est celle d'être représentatif? Est-ce que c'est celle d'être tiré au sort? Aujourd'hui, la question, en tout cas, mérite d'être posée. Aujourd'hui, notre démocratie, on l'a beaucoup fondée sur les bases d'une démocratie élective, où on vote pour des représentants. Mais finalement, ces représentants, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément toutes les clés pour répondre aux attentes des Français. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un ouvrier, alors qu'en France, c'est 20% d'ouvriers. Et des expériences comme la Convention citoyenne permettent à une représentativité de se dévoiler. En France, il y a plus de femmes que d'hommes. Et dans notre Assemblée, il y avait plus de femmes que d'hommes.
Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut être représenté par quelqu'un de fort, d'intelligent, qui connaît ses dossiers par cœur, ou est-ce qu'on veut être représenté par quelqu'un qui nous ressemble? Vous dites, Grégoire Frati, chaque citoyen peut parler et avoir des choses à dire sur des sujets y compris sensibles.
Exactement. En fait, je pense pas qu'il faille confronter les deux légitimités. Je pense qu'elles peuvent s'alimenter. Il faut co-construire ensemble. C'est pas parce qu'on va tirer au sort des citoyens qu'il faut ne plus écouter les représentants que nous avons élus. En revanche, les représentants que nous avons élus, on se rend compte, après les avoir côtoyés maintenant depuis plusieurs mois, qu'ils ont besoin de ce retour citoyen, ce retour du terrain. Ça leur manque un petit peu parce que on a beau dire, ils ont des circonscriptions, ils sont élus, ce sont des citoyens à la base. Ils sont parfois déconnectés. Quand on parle de crise climatique et qu'on nous sort une taxe carbone qui met des millions de Français dans la rue, on se dit il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné.
Et ben voilà. Cela dit, vous aussi, vous arrivez, alors pas exactement avec la même taxe carbone, vous arrivez avec des mesures qui peuvent être contraignantes, qui peuvent être difficiles, y compris pour l'économie, hein, faut bien le souligner.
Effectivement.
Est-ce que vous pensez qu'à travers vous, la pilule passe mieux, pour le dire clairement ?
Mais ce n'est pas qu'à travers nous, la pilule passe mieux, c'est simplement que nos mesures sont différentes. Effectivement, on ne propose pas une taxe carbone qui va venir coûter aux Français moyens sur sa voiture. Non, nous, on va proposer des mesures qui sont beaucoup plus cohérentes. On va proposer des chèques alimentaires, on va proposer de rénover et d'isoler les logements, on va proposer de faire attention à l'aérien et de promouvoir les mobilités douces. En fait, on va juste trouver des solutions qui sont plus acceptables par la société française et qui respectent aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la justice sociale. Et cette justice sociale, les citoyens, avec notre représentativité, on avait la chance d'avoir des personnes en très grande précarité. Nous avions une grosse masse de citoyens qui étaient en revenus très modestes. Bah voilà, ça nous permet d'avoir cette petite musique dans l'oreille qui nous dit attention, il faut pas oublier le français moyen, faut pas oublier le français de base qui, finalement, à la fin, c'est lui qui va payer. Mais il faut qu'il comprenne pourquoi, il faut qu'il sache pourquoi, et il faut qu'il soit en capacité de l'accepter. Et nous, c'est ce qu'on a voulu mettre sur la table avec ces 146 propositions qui ont été validées par le président de la République. Ce sont des mesures qui, selon nous, sont acceptables par la société française.
Est-ce que cette expérience a changé votre regard sur la politique ?
Totalement, totalement. Moi, je faisais partie de ces Français, un petit peu ce ventre mou des Français qui se disaient « De toute façon, je vote, mais est-ce que je suis vraiment représenté ? Est-ce que je me retrouve ? Est-ce que ça vaille le coup que je me déplace ? » Et finalement, je me rends compte qu'il y a, au sein des politiques, des gens qui sont totalement déconnectés, mais aussi des gens qui sont totalement engagés. Des gens qui se battent, qui portent des convictions, et ça fait du bien, ça rassure un petit peu, en fait, sur la sphère politique. À côté de ça, je me dis, oui, j'ai compris que leur boulot était compliqué, mais je me rends aussi compte que leur boulot, c'est pas impossible, on peut le faire. La preuve, on tire 150 citoyens, on les fait travailler pendant 9 mois, et ils sortent un rapport qui est, sur bien des sujets, beaucoup plus pointu que ce peut nous produire la société politique française. Donc, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Donc,
alors, 150 citoyens, 149 propositions, le président s'engage à en reprendre 146. Aujourd'hui, on sait, je rentre pas dans le détail de tous les débats de chaque mesure, bien sûr. On sait qu'il y a beaucoup de déceptions chez les écologistes sur la façon dont le président de la République s'approprie vos propositions dans le projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine. Et pourtant, on a en même temps le texte sans doute le plus ambitieux en termes d'écologie qu'on ait jamais connu. Je ne sais pas si vous êtes déçu, si vous êtes fier, c'est difficile à analyser.
Effectivement, c'est compliqué à analyser parce que c'est complexe. Le texte qui est aujourd'hui sur la table proposé par le gouvernement, c'est un texte ambitieux. On n'a jamais proposé autant, on n'a jamais mis autant d'argent sur la table. Mais est-ce que ce sera suffisant ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on ira suffisamment vite, suffisamment loin ? Moi, j'en doute aujourd'hui, j'en doute parfois, même si je peux me satisfaire de voir des mesures passer. Je me dis, chouette, on a des victoires, mais à chaque article qui sort, à chaque rapport du GIEC ou de Météo France qui peuvent sortir, il y a l'urgence qui fait jour, il y a l'urgence qui nous dit il faut aller encore plus vite, il faut aller encore plus loin, et finalement on désespère de voir que parfois la politique politicienne reprend ses droits et les choses ont du mal
justement,
à avancer.
Justement, parce que vous l'avez vu à 3 reprises, le président de la République, d'autres membres du gouvernement aussi. Allez, comme ça, est-ce que pour vous, là, le regard que vous portez sur Emmanuel Macron, c'est celui du « Make our planet great again » ou c'est celui qui fustigeait les écologistes et leur modèle Amish ?
On peut reprendre-le en même temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui porte la voie écologique à l'échelle internationale.
Vous allez faire de la politique, Grégoire Frati ?
On ne sait jamais, on verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Vous avez envie ? Ça vous a donné envie de vous engager ?
En fait, voilà, ça m'a donné envie de m'engager. De faire la politique, je ne suis pas sûr, mais de m'engager, oui, parce qu'on se rend compte qu'il faut Il faut faire bouger les choses. Et pour revenir sur le président de la République, c'est quelqu'un qui a eu le courage de mettre une convention citoyenne sur le sujet, de se dire, moi je vais mettre dans la chaussure 150 citoyens qui vont venir me titiller, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et donc moi là-dessus, je reconnais un certain courage politique. Après, il y a la réelle politique qui apprend ses droits. On a vu, il y a la crise économique, la crise sanitaire. On comprend que c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne doit pas le faire.
Grégoire Frati, merci beaucoup. Vous avez arrêté la viande et l'avion, Grégoire Frati ?
Pas du tout. Je continue à manger de la viande. En revanche, j'essaye de moins prendre l'avion. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut changer pour le climat.
Merci beaucoup Grégoire Frati, même si en ce moment c'est compliqué de prendre l'avion tout court. Membre de la Convention citoyenne sur le climat, expérience démocratique parfaitement inédite dans notre République. Auteur de Moi citoyen qui paraît demain chez First, écrit avec Ondine Cayatte. Merci beaucoup Grégoire Frati.
Merci à vous.
Il est 7h51 et tout de suite l'édito politique, Nicolas Bétou. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est celui qu'on n'attendait pas. Clairement.
Le vaccin russe qui frappe déjà à la porte de l'Europe.
Quand on parle produits pharmaceutiques, en ce moment, on a un peu trop tendance à ne voir les Russes que comme les empoisonneurs de Navalny avec des substances manipulées dans des laboratoires datant de l'URSS. Bon, ben, la réalité est tout autre. Et voici les Russes tellement moqués jusqu'ici pour leur Spoutnik en passe de nous aider à obtenir des doses de vaccins et donc de savourer une petite vengeance à leur humiliation.
Bon, on va quand même peut-être attendre la certification par l'Agence européenne du médicament.
Bien sûr, mais c'est un fait. Ils ont un vaccin que des chercheurs occidentaux ont approuvé. Ils ont un vaccin comme les Chinois, les Américains, les Anglais. Et c'est un petit choc tout de même. La France se retrouve seul pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à n'avoir développé aucun vaccin. Dans ce club des cinq superpuissances nucléaires, militaires, économiques, diplomatiques et scientifiques, ben ça fait tâche. D'autant que nous, Français, avons laissé passer au moins une occasion d'avoir notre propre vaccin.
Alors je suppose que vous ne faites pas allusion à Pasteur ni à Sanofi, on n'y est pas, mais vous pensez à qui? À la start-up Valneva?
Exactement, à cette petite boîte nantaise, un bijou de la biotech qui a pourtant la BPI dans son capital, mais qui n'a reçu aucune réponse de l'État à ses demandes d'aide pour développer sa découverte. Ses dirigeants se sont donc tournés vers les anglo-saxons et ça n'a pas traîné. 470 millions en Grande-Bretagne, plus 170 aux États-Unis. Une prise de risque là-bas, une perte sèche chez nous. Et en passant, une belle leçon à tous ceux qui critiquent le modèle capitaliste qui nous expliquait doctement lors du premier confinement qu'il était mort ce modèle. C'est quand même ce bon vieux modèle qui a permis la découverte scientifique la plus rapide de toute l'histoire des vaccins.
Et la Russie et la Chine, vous ne les rangez tout de même pas dans la catégorie des pays capitalistes?
Alors si je pourrais, en fait...
Pas encore.
Mais en fait, ils pratiquent une sorte de capitalisme d'État. Mais la leçon de cette course au vaccin et de cette irruption d'un brevet russe, c'est que face à un risque total comme celui de la pandémie Covid, il n'y a que deux modèles qui marchent. Celui du capitalisme pur, y compris avec des précommandes massives de la part de l'État qui prend des risques. Hein. C'est le modèle anglo-saxon. Ou celui de l'économie administrée, socialisée, où l'État décide tout et finance tout, c'est la Chine et la Russie. Or, nous sommes, nous, toujours tiraillés entre ces deux modèles, particulièrement dans le domaine de la recherche. Eh bien, résultat, on passe à côté, et au pays de Pasteur, on ne fait plus l'histoire.
Votre édito, tous les matins, qui fait réfléchir ce matin, qui fait même un peu peur pour la suite, Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, à réfléchir évidemment à cette question des vaccins dont nous reparlons dans le journal de 8h, 7h56. Et comme tous les jours, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia reçoit Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Et c'est François Hollande qui va venir lui dire un petit mot. Bonjour, monsieur le président.
Hey, quelle frilosité, quel manque de courage à part de président Macron. Goûtez votre chronique, monsieur Bétou. Oui, bonjour, monsieur Billard. Pardonnez-moi, c'est pas le sujet. Quel est le... Vous pouvez me dire le nom de l'invité de madame Mabrouk?
Oui, c'est Jean-Yves Le Drian.
Ah! Mon Jean-Yves Le Drian est vivant, donc. Ah bah écoutez, alléluia, alors non. Mais oui, non, mais comme j'avais pas de nouvelles depuis 2 ans déjà, non, je croyais qu'il était décédé, moi. C'est fou. Il y a des agents secrets, mais comme quoi, il y a aussi des ministres secrets. Tu vois. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Comme les avions furtifs, hein. Il est indétectable, mon Jean-Yves. Et il bosse sur quoi avec la petite crotte? Avec Macron, pardon.
Il est aux affaires étrangères.
Il est étranger, oui. C'est pour ça qu'on le voyait jamais. Oui. Moi, je l'avais mis où déjà à l'époque?
À la Défense.
Ah oui, la Défense, ça revient bien, la Défense. Et j'avais pas vu non plus pendant 5 ans. Remarquez, j'avais pas vu non plus mon Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, non plus. Quel souvenir, hein. La Dream Team, hein, celui qui se met tout.
Exactement.
Ouais, je m'adressais directement à mon Jean-Yves. Et tiens, Jean-Yves, j'avais goûté la dernière interview avec Sonia Mabrouk. Et cette fois-ci, essaye de regarder Sonia Mabrouk au moins une fois dans les yeux en 15 minutes d'interview. Hein. La dernière fois, il avait regardé ses pompes, hein, timide, je ne sais pas. Ou mal élevé, tout simplement. Vous vous rendez compte, il n'avait même pas regardé une seule fois dans les yeux. Chef de la diplomatie, c'est fou ça. Alors que moi, c'est autre chose. Moi, je regarde toujours les femmes dans les yeux parce que je suis un franchelover.
C'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours. Ce matin, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. Il est 7h59 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et je ne vous ai pas suffisamment parlé du vent, mais à coup de pas, chers amis, puisque depuis ce matin, je ne l'ai pas encore évoqué, et Dieu sait s'il a son importance dans notre météo. Le vent à 70, 80, 90 km/h. Alors sur la moitié nord, il pleut depuis ce matin très tôt. Paris a été touché plus vite que je ne le pensais. Je pensais que la pluie arriverait vers 9h, 9h moins le quart. Eh bien non, elle est déjà là et elle va tomber pendant environ 45 minutes. Ensuite, ça va se calmer et ça va repartir, ainsi de suite, car c'est dans cette partie de la France que les pluies sont espacées, région parisienne, mais parfois très fortes aussi, comme le Poitou-Charentes, la Lorraine, l'Alsace, très fortes sur le nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, et cela dans la journée, hein, de manière assez continue pour certaines. On ne va pas faire dans le détail, c'est pas possible, disons que les seules régions qui vont échapper à ce type de temps seront le Midi-Pyrénées et le bassin méditerranéen, avec des températures qui sont fort heureusement extrêmement douces, et le resteront, je dis fort heureusement parce que c'est une consolation dans ce climat extrêmement difficile d'inondation quasi générale.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.